Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux. Sur France Inter.
Bonjour Pierre Persson.
Bonjour Éric Delvaux.
Député La République En Marche, 6e circonscription de Paris. Question ce matin donc sur la gouvernance Macron, le macronisme en général. Ça passera notamment demain par un séminaire gouvernemental afin de mieux organiser le travail et la feuille de route pour les 3 mois à venir. Qu'est-ce qu'un député macroniste comme vous, Pierre Persson, attend de ce séminaire gouvernemental ?
Le fait qu'il y ait un séminaire gouvernemental, c'est la concrétisation que le gouvernement, c'est une équipe. Et que Emmanuel Macron donne un cap, que le gouvernement l'applique, et qu'ensuite les parlementaires agissent pour équilibrer tout cela et votent les textes. Et donc, on attendra demain que le gouvernement décline l'agenda pour les prochains mois à venir. Et en ce sens, travaille d'une seule main pour mettre en place les réformes que les Français attendent dans notre pays.
Un président Macron qui penche à droite, c'est le titre ce matin à la une du Figaro. Est-ce qu'il s'agit maintenant donc de gauchiser la feuille de route pour les 3 prochains mois ? C'est aussi à ça que pourrait servir ce séminaire demain ?
Non, je ne le pense pas. Pendant la campagne présidentielle, on s'était demandé si Emmanuel Macron était de droite ou de gauche. Ensuite, on s'est demandé si son programme était de droite ou de gauche. Ensuite, on s'est demandé si l'Assemblée était de droite ou de gauche. Et maintenant, on se demande si le budget est trop à droite ou trop à gauche.
Non, un budget pour les riches, on lit souvent.
Oui, un budget pour les riches. Mais bon, sur ça, on peut que le contester. Quand aujourd'hui, on fait 11 milliards de pouvoir d'achat en faveur des plus modestes dans notre pays en supprimant la taxe d'habitation et qu'en contrepartie, on regarde les 3 milliards qui sont réinjectés dans notre économie en supprimant l'ISF, vous voyez bien qu'il y a un écart. Et l'écart, il est en faveur, en effet, du pouvoir d'achat pour les plus modestes. Donc, on ne peut pas considérer aujourd'hui que le budget que nous mettons en œuvre est un budget pour les riches. Par contre, moi, j'aimerais qu'on sorte simplement de la dichotomie droite-gauche. Et aujourd'hui, dire qu'on fait un travail équilibré. Quand vous souleviez tout à l'heure qu'il y a eu une concertation entre les députés marcheurs et l'exécutif, je pense qu'on revient au sens de la Ve République. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui est valorisé par le travail de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire, parce qu'il y a eu une concertation. Et entre les députés et l'exécutif, il y a un travail. Et les députés ont, pour chacun, participer à améliorer le texte, à le rendre plus équilibré. Quand on soulève la question, par exemple, de la taxation sur les yachts ou sur les biens ostentatoires, ça faisait déjà un mois que nous travaillons déjà en amont avec Bercy pour soulever cette problématique, parce que en effet, il y avait cette question-là qui n'était pas des biens productifs, en tout cas qui n'allait pas servir à l'investissement dans notre pays et qui aurait pu poser un problème politique. Et donc, on a travaillé main dans la main pour améliorer le dispositif.
Alors, vous le dites justement, vous travaillez énormément, semble-t-il, tant à l'Assemblée qu'au gouvernement. Avez-vous eu le temps, avez-vous pris le temps dans l'action, de conceptualiser ce que serait la doctrine macronienne?
Je pense qu'on la conceptualise jour après jour. La doctrine macronienne, c'est notamment le réel. C'est partir du réel pour ensuite proposer. Et c'est tout ce qu'on a fait pendant la campagne présidentielle et qu'aujourd'hui on est en train de faire. Les députés et notamment nos marcheurs, les députés marcheurs sont toujours en lien avec le terrain. Chaque semaine, ils reviennent de leur circonscription à l'Assemblée et ils échangent les uns avec les autres pour évaluer quels sont aussi les retours sur le terrain. Et donc sur ce point-là, on est des députés qui sont ancrés sur leur territoire.
La doctrine macronienne, si je vous entends bien, ce serait donc le pragmatisme ?
C'est le pragmatisme, c'est la concertation, c'est le dialogue, c'est la pédagogie, c'est un tout. Et en ce sens, c'est ce qui a manqué, à mon sens, pendant 20 ans dans la vie politique. Je ne dis pas qu'on va tout renouveler en 2 mois, mais l'objectif, c'est aujourd'hui de mieux expliquer ce qu'on veut faire et de partir du réel pour changer la vie des gens.
À votre connaissance, est-ce qu'Emmanuel Macron veut construire une doctrine ou est-ce qu'il préfère ne pas figer les choses ?
Je pense qu'il faut sortir des dogmes, surtout lorsqu'ils sont défensifs. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir une idée et puis dans son application, dans sa mise en œuvre, on peut trouver parfois des conséquences qui ne sont pas celles voulues initialement. Donc il y a notamment toute la question du contrôle, des indicateurs que nous pouvons mettre en place, notamment en tant que parlementaires, pour contrôler a posteriori la loi. Donc,
quels sont les indicateurs que vous mettez en place ?
Mais ça, c'est toute la réflexion que nous sommes en train de faire, parce que nous pensons aujourd'hui que le rôle du Parlement doit être valorisé, mais pas tant en tant que concepteur, créateur, éditeur de la loi, mais surtout en tant que contrôleur de son application. Je pense que trop souvent, on a délaissé en effet le rôle du parlementaire sur cet angle-là et on laisse parfois des tas de normes qui n'ont pas eu d'effet concret ou ne sont pas rentrées en application et on n'a surtout pas eu d'indicateurs pour permettre de juger de la pertinence de ces normes. Et donc, le rôle du parlementaire, à mon avis, du 21e siècle, notamment dans la Ve République, c'est un parlementaire qui contrôle.
pour que le Parlement ne soit plus simplement une caisse d'enregistrement, tout comme on fait. L'a souvent dénoncé. À quoi va servir dans cet esprit l'atelier des idées qui va se mettre en place prochainement dans La République En Marche, si ce n'est justement pour clarifier la ligne du parti?
Il faut aujourd'hui donner moyen aux citoyens, c'est ce qui est ressorti de la campagne, de pouvoir s'exprimer. Et donc il faut trouver de nouveaux outils pour que les citoyens en France puissent participer au débat public. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que 577 personnes réunies dans un hémicycle ne détiennent pas toute l'intelligence collective de notre pays et qu'il faut pouvoir tirer cette intelligence des territoires, des comités qui se concertent, des partenaires sociaux et de ce qu'on pourrait appeler les corps intermédiaires en général, et du monde associatif bien entendu. Et donc, il faut que sur le terrain s'organise et bien des processus de concertation, des processus de réflexion pour améliorer et bien les réformes que nous allons mettre en place.
Donc cet atelier des idées, il aura quelle forme? Aller chercher les idées sur le terrain, c'est bien, mais ça marche comment? Vous allez avoir des délégués, des référents dans chaque département, c'est ça l'idée?
Alors, nous avons déjà une structuration territoriale, un peu comme les autres partis, sauf que nous essayons d'allier à la fois horizontalité et verticalité, parce que on peut pas faire du tout vertical et on peut pas faire du tout horizontal. Et donc la question, c'est comment aujourd'hui vous arrivez à attirer de nouveaux Français dans cette dynamique de réflexion, de création. Et donc là se pose en effet la question des outils.
Parce qu'il s'agit maintenant donc de transformer le mouvement En Marche en un parti politique pérenne. On va en reparler, si vous voulez bien, dans un instant après la revue de presse. On en parlera également avec l'historien Jean-Noël Jeannonnet, auteur du « Moment Macron » paru aux éditions du Seuil. Et dans quelques minutes également, vos questions, les auditeurs, à nos deux invités ce matin. Vous appelez le standard, c'est au 01 45 24 7000. A tout de suite.
Quand on est presbyte, le quotidien, ça peut être ça.
Allez, c'est parti, je suis au restaurant et je lis le menu. Je baisse la tête, je tends les bras, je plisse les yeux. Oh, un SMS arrive, je reste calme. J'ajuste la position de ma tête, je fais la mise au point et je commence à lire.
Ou sinon, il y a plus simple. Avec les nouveaux verres progressifs Varilux X-Series, retrouvez une totale liberté de vision à toutes les distances, sans avoir à bouger la tête pour voir net. Varilux X-Series, une nouvelle dimension de vision. Varilux, un verre Essilor. Liste des opticiens partenaires sur Essilor.fr. Dispositifs médicaux, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien.
Une envie de Peugeot, ça n'attend pas.
Votre beau-frère s'est offert le SUV Peugeot 2008. Navigation 3D, parc assist avec caméra de recul, grip control et ce style tellement robuste. Et si vous lui demandiez qu'il vous le prête? Après tout, il a épousé votre sœur.
Pendant les irrésistibles Peugeot, pour l'achat d'un SUV 2008, Peugeot reprend votre voiture 3000 euros en plus de l'Argus. Offre valable jusqu'au 31 octobre. Détails sur peugeotwebstore.com.
Il est 8h30, un détour par le PC Mobilité de France Inter. Laurent Bande, il y a un accident dans le nord de la France.
Oui, sur la 26, entre Troyes et Calais, en direction de Calais, au niveau de Choc, c'est dans le Pas-de-Calais. La circulation s'effectue sur une seule voie dans ce secteur. Et puis, en région parisienne, il y a toujours cet accident sur la 14, entre Orgeval et la Porte-Maillot, en direction d'Orgeval, au niveau de la bretelle de sortie de Nanterre. Soyez extrêmement vigilants.
Point route, avec les gentlemen du déménagement, réseau de déménageurs pour les particuliers et les entreprises.
Gentlemen du déménagement.
Voilà un autre gentleman qui arrive, il est 8h31 sur France Inter. C'est l'heure de la revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Bonjour Eric. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Donc, science, science, conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais qui écrivait cela il y a près de 500 ans et l'on retrouve la citation dans l'édito que signe Frédéric Vézard dans Aujourd'hui le Parisien, lequel préconise de graver cette sentence de l'écrivain à l'entrée de tous les laboratoires de recherche. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Autrement dit, avec certaines recherches scientifiques, certaines avancées scientifiques, on risque, si l'on y prend garde, de perdre son âme. Comme un rappel à l'ordre, alors que le quotidien pose à sa une cette question, aurons-nous bientôt dans nos assiettes des animaux transgéniques? Après les OGM, les organismes génétiquement modifiés, voici maintenant les AGM, les animaux génétiquement modifiés. Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais sachez qu'ils s'approchent et qu'ils pourraient bien débarquer dans l'Hexagone un jour ou l'autre. Le Canada vient en effet d'autoriser la commercialisation de saumons issus de manipulations génétiques. Des saumons créés par une entreprise américaine et conçus pour se développer plus vite que les poissons traditionnels. Ils atteignent leur taille adulte en 16 mois. Contre 30 mois pour un saumon non modifié, super rentable évidemment pour ceux qui les produisent. Et même si ces poissons ne sont pour l'instant pas autorisés à la vente en France, les associations anti-OGM qui les ont rebaptisés saumonstres ou frankenfish tirent bien sûr la sonnette d'alarme, car à vue d'œil, rien ne les différencie des autres. Et ils pourraient donc se retrouver dans nos assiettes à la faveur du CETA, le nouvel accord de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Canada, un apport qui réduit les obstacles aux échanges commerciaux entre les deux continents. Bientôt, peut-être mangerons-nous du saumon transgénique. Doit-on se réjouir ou doit-on s'inquiéter ? Le journal s'interroge et on s'interroge également, tout en nous amusant du dessin de rançon illustrant le dossier. C'est un couple en train de dîner. Et la femme lance à son mari « Je t'ai préparé du saumon génétiquement modifié ». Réponse du mari « Ok, je vais prendre une cuisse ».
Oui, comme le disait Patricia Martin ce matin, c'est un dessin de genre, puisque c'est toujours la femme qui fait à manger au monsieur.
Et pour l'heure, les saumons même modifiés n'ont pas encore de cuisse.
Que je sache. D'autres projets similaires dans la presse ce matin, et des projets qui sont aujourd'hui sur le point d'aboutir.
Eh bien oui, nous restons sur ce dossier. Par exemple, en Chine, il y a des cochons génétiquement modifiés. En modifiant un gène régulant la croissance musculaire, ça donne une viande plus abondante et moins grasse. Dans le Minnesota, une start-up a imaginé des vaches laitières génétiquement modifiées. Elle a réussi à les faire naître sans cornes, ce qui leur évite, paraît-il, de se blesser. Et toujours aux États-Unis, certains ont même créé des chats génétiquement modifiés. Là, bien sûr, il n'est plus question d'en faire ensuite des civets, non. Ce sont des chats sur lesquels on a désactivé les gènes responsables des allergies. Pratique, les allergiques n'éternuent plus quand ils les touchent. Pratique, oui, mais il s'agit dès lors de matous modifiés pour le seul agrément des humains. Voilà donc pour la une et le dossier du journal dans lequel, en page 11, la page des faits divers, on retrouve l'info qui sans doute a fait éternuer l'un de nos anciens présidents.
Oui, dans l'affaire des écoutes, un procès requis contre Nicolas Sarkozy.
Et c'est donc une info du Parisien. Et depuis que le journal l'a fait paraître hier, elle fait, comme on dit, les choux gras, des twittos et des facebookers. Le PNF, le parquet national financier, a donc demandé le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel. Et ce pour corruption, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel dans l'affaire dite des écoutes. Selon le quotidien, le PNF demande également le renvoi de son avocat Thierry Herzog et de l'ancien premier avocat général près la Cour de cassation Gilbert Azibert. Dans ce dossier, les juges soupçonnent l'ancien président de la République d'avoir proposé de faciliter une promotion à Monaco de Gilbert Azibert, promotion prestigieuse qui finalement ne se fera pas. Mais en échange, le magistrat devait donner des renseignements sur l'avancée d'une autre procédure en cours. En l'occurrence, la procédure concernant les soupçons de financement par la Libye de la campagne de Nicolas Sarkozy, sa campagne présidentielle de 2007, c'est à cause de cette enquête, parce qu'il se savait sur écoute que l'ex-chef de l'État avait utilisé un téléphone sous le nom de Paul Bismuth. Mais là, ce n'est pas Paul Bismuth, c'est bien Nicolas Sarkozy qui se trouve renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Autre affaire judiciaire, et cette fois ça concerne un producteur américain, et c'est à lire dans Libération.
Une affaire de harcèlement sexuel et un retentissement énorme dans la presse américaine et dans la population américaine. L'homme mis en cause s'appelle Harvey Weinstein. Il mesure 1m80, il pèse plus de 100 kilos, 100 kilos d'un ego surdimensionné. C'est l'un des principaux piliers du cinéma américain, créateur de la boîte de production Miramax, un géant de la production dans la tourmente depuis 3 jours, après la parution dans le New York Times d'une enquête sur son comportement avec les actrices, pression, chantage sexuel. Après des années de silence, plusieurs actrices américaines ont décidé de parler. Fin de l'omerta et fin d'un homme, ou du moins de sa réputation. Autre homme mis en cause dans les colonnes du journal, un autre type de harcèlement. Et cet homme, c'est le premier ministre du Cambodge. Il s'appelle Hun Sen et il s'est lancé depuis plusieurs mois dans une vaste campagne de répression, dérive autoritaire. Un leader politique arrêté en septembre, la vice-présidente du parti d'opposition qui a pris la fuite, des médias muselés et des ONG des droits de l'homme qui craignent pour la suite. Ce n'est pas encore la dictature, mais le Cambodge inquiète par peur de perdre le pouvoir. Son dirigeant devient chaque jour un peu plus un tyran. De son côté, le Figaro s'intéresse ce matin à notre président. Macron penche à droite, sa gauche tangue, et le quotidien d'expliquer que le chef de l'État s'est construit sur le dépassement des clivages, ni de gauche ni de droite, mais depuis son arrivée à l'Élysée, il donne essentiellement des gages à la droite, ni de gauche ni de gauche, ce qui dès lors inquiète la gauche. En baisse dans les sondages, Emmanuel Macron entend désormais corriger ce déséquilibre, assure le quotidien de droite, citant la réforme de la formation professionnelle et des mesures, de futures mesures en faveur des plus modestes, comme la revalorisation des minima sociaux.
Et on va en reparler dans un instant avec nos deux invités. Enfin Frédéric, ce sont deux hommes que l'on retrouve à la une de Libération, un couturier et un chanteur.
Le couturier allemand Karl Lagerfeld et le chanteur belge Stromae, quatre pages d'un dialogue dans lequel ils évoquent à la fois la musique et la mode, leur rapport au temps, leur rapport au travail, à la célébrité, leur phobie des selfies, mais également la dépression du jeune chanteur. Il fait une pause dans sa carrière, il ne supporte plus la scène. On dirait que ses fans lui font peur. Lagerfeld, Stromae, alors on cause, titre joliment le journal, évoquant une rencontre inédite entre deux phénomènes de la pop culture contemporaine, deux stars, deux dandys. Honnêtement, le plus rigolo, c'est vraiment Lagerfeld, notamment quand il parle de sa chatte poupette, choupette, 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 dit-il, elle est jamais seule parce qu'elle n'aime pas ça. Elle a de la chance. Elle a deux femmes de chambre avec elle. C'est honteux. Il n'y en a que pour elle. Et comme elle fait de la pub, elle a gagné beaucoup d'argent. Elle a sa propre fortune. S'il m'arrivait quelque chose, pas d'inquiétude. Choupette a une rente, explique-t-il. Le couturier nous dit par ailleurs qu'il s'est aperçu que Choupette n'aimait pas la musique, surtout l'opéra, précise-t-il. En revanche, elle adore Carlos Gardel, le dieu du tango argentin. On est ravis de l'apprendre, on est ravis pour Choupette, et on se demande si Choupette n'est pas la première chatte génétiquement modifiée.
Allez savoir, Carlos Gardel qui est né en France à la fin du 19e siècle, me semble-t-il, c'était la revue de presse de Frédéric Pommier.